remettre dans la boîte, non? Dans la boîte, on est d'accord. Oui, s'il n'y a pas de cérémonie officielle, hein, c'est pas, ce n'est pas le lieu. Mais Pierrette ira le mettre dans la boîte. La boîte à Edith. Bon. Bien. Allez, on commence sans plus tarder. Donc, Olivier Dubouclet est déjà bien connu, évidemment, puisque c'est lui qui a apporté, à défaut de vrai sang, certainement du sang neuf, puisqu'il a marqué son entrée dans le territoire ou sur la scène novarinienne, donc en 2005, avec deux livres. Le portfolio que j'ai évoqué dès l'introduction samedi dernier, et puis donc également la physique du drame, donc c'était en 2005, et qui depuis d'ailleurs ne cesse de travailler sur Valère Novarina, et donc je lui laisse la parole.
Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Enfin là je suis, ça va pour le micro? Merci, je suis très, voilà, très heureux de cette invitation, je remercie les organisateurs et organisatrices qui ont fait un énorme travail, et voilà, je voulais saluer leur implication, leur présence et leur travail pendant toute cette semaine. Je suis très heureux aussi de parler dans ce lieu, d'être là entre les livres, au milieu des livres. Enfin, c'est particulièrement, pour moi, réjouissant. Alors, en apparence, je vais parler de quelque chose d'assez paradoxal. Je vais partir de quelque chose dont on parle, évidemment, mais je voudrais y consacrer un certain temps aujourd'hui, puisque je vais parler du silence. Et en apparence, rien n'est plus opposé à l'œuvre de Valère qu'une certaine apologie du silence, une certaine apologie de l'économie verbale. Vous avez tous voilà, ces formules en tête, en particulier dans L'envers de l'esprit, qui dit très clairement à propos du spectacle de théâtre, hein, je cite, « Aucun silence jamais. Faire de l'émotion avec de l'attente, fasciné par le ralenti, c'est un procédé trop facile. Ici, nous sommes ensemble dans une combustion, un tohu-bohu. Un foyer optique qui respire, une gravitation de tous les sens dans tous les sens. » Et loin de toute pantomime, évidemment, le théâtre novarinien est le lieu, je reprends sa formule, la formule de Valère, le lieu de l'incandescence du langage. Et vous savez aussi que Valère fait de l'exigence d'aller le plus loin possible dans la parole, hein, l'un de ses principaux leitmotivs, qui renverse hein, la proposition finale du Tractatus. Ce dont on ne peut parler, c'est cela qu'il faut dire. Pourtant, au sein de ce tohu-bohu, le silence a aussi une place. Non seulement parce que le silence est présent dans les interstices du discours, non seulement parce qu'il faut se résoudre à la fin à faire silence, comme le conclut l'opérette imaginaire, mais aussi parce qu'il y a un silence qui travaille au plus profond des choses, et dont une certaine littérature que j'appellerais bruitiste, de Flaubert à Novarina, constitue la manifestation paradoxale. Je voudrais citer là-dessus deux phrases, de observer les logaèdres, deux mots d'ordre en réalité. Voilà la première citation. Retrouver la syntaxe de l'air et une parole muette reposant en toute chose. Vous voyez que l'idée même de parole muette vient rompre l'opposition entre silence et langage. Hein, le silence n'est plus l'autre de la parole, mais l'une de ses manières d'être. Lorsque celle-ci se trouve contractée dans la matière, dans l'attente silencieuse de son déploiement. Quelques lignes plus bas, vous avez une autre formule tout à fait frappante, tout à fait profonde et qui peut-être résume tout ce que j'aurais à dire aujourd'hui, puisque cette formule, c'est un impératif de silence. C'est un impératif de silence qui est formulé. Je cite, « Dieu est celui qu'il faut taire pour l'entendre appeler toute chose. » Formule extrêmement hautement spéculative. Le silence sur Dieu n'est pas l'autre de la parole, il en est plutôt le ressort, et il conditionne la révélation des noms. Et je crois aussi que c'est tout simplement une leçon d'écriture. Quelque chose doit être tu pour que ça parle. Et ce tu, on va le voir, peut s'entendre en plusieurs sens. Voilà, donc c'est pour comprendre ce que j'appellerais ce silence de fond chez Novarina, que je me propose de relire devant la parole, le premier essai hein, qui ouvre devant la parole, qui ouvre le recueil de 1999. Et vous le savez, le propre de cet essai est de nous ramener du chaos de la communication à ce que Valère appelle le fond du langage. Et ce fond du langage, il reçoit une détermination précise. C'est un endroit muet. C'est une clairière au milieu des turpitudes. C'est un lieu, et ce mot est un mot de Valère, un lieu depuis lequel nous parlons, et c'est la prière. Formule très étrange, hein, que je reprends dans sa, quasiment dans sa littéralité. La prière est un lieu, une place, un milieu. Trois qualifications de la prière qui se trouvent sous la plume de Valère. Dans Notre Parole, un texte publié en 88, et qui est très clairement le noyau à partir duquel s'est écrit cet essai devant la parole, la prière de Jean-Paul Kaufmann occupait déjà une place centrale. Et je crois que devant la parole vient approfondir la signification ou la portée théologique de cette référence à la prière. Alors, ma première partie, je vous donne les titres pour un peu comme ça baliser très, très clairement mon propos, s'intitule « Une perspective historique par-delà la philosophie du langage ». Ce que je voudrais faire, c'est commenter assez rapidement la première page de l'essai devant la parole, la page 13 dans l'édition POL, pour montrer qu'il y a là comme quelque chose qui ressemble et qui pourrait être une philosophie du langage, mais dont l'essai va ensuite totalement se séparer pour proposer une autre réflexion. Alors, je vais peut-être relire cette page, parce qu'on a un peu de temps, et que ça permettra à tout le monde de l'avoir en tête. Voici que les hommes s'échangent maintenant les mots comme des idoles invisibles, ne s'en forgeant plus qu'une monnaie. Nous finirons un jour muets à force de communiquer. Nous deviendrons enfin égaux aux animaux, car les animaux n'ont jamais parlé, mais toujours communiqué très très bien. Il n'y a que le mystère de parler qui nous séparait d'eux. À la fin, nous deviendrons des animaux, dressés par les images, hébétés par l'échange de tout, redevenus des mangeurs du monde et une matière pour la mort. La fin de l'histoire est sans parole. Alors, il y a deux notions dans ces lignes qui me renvoient à ce que j'ai appelé philosophie du langage, ou réflexion philosophique sur le langage. D'abord, l'animal. Et ensuite, la comparaison du langage avec la monnaie. Je vais commenter assez rapidement ces deux choses pour ensuite me diriger vers la question de la prière. Alors, d'abord, la question de l'animal. En apparence, Valère reprend ici une idée qui est centrale dans toute réflexion philosophique et anthropologique sur le langage, à savoir la séparation radicale entre la parole humaine et la communication animale. Et quand on lit ce texte, quand on lit effectivement que les animaux n'ont jamais parlé mais toujours communiqué très très bien, hein, on pourrait croire que Valère rejette, avec beaucoup d'autres, avant lui, d'Aristote à Cassirer, l'idée d'un langage animal, pour réserver à l'homme un certain accès au langage propositionnel et à la dimension du symbolique. Pourtant, il y a deux raisons qui s'opposent à cette assimilation. La première, j'y reviendrai, c'est que l'animal n'est pas, l'animal est un héros de devant la parole. C'est une référence tout à fait importante et centrale dans cet essai et dans l'œuvre de Valère en général, et qui n'est pas simplement cet animal qu'on rejetterait pour définir le propre de l'homme. On y reviendra. La seconde raison, c'est que ce début ne dit pas que l'homme possède une parole qui serait en soi transcendante à la communication animale, comme si c'était là une donnée essentielle, comme si c'était là une donnée fixe de l'être humain. Ce que Valère affirme dans ce début, ce devant quoi il nous met, c'est devant un péril historique. L'homme contemporain porte une parole qui est en voie d'animalisation, qui se réduit de plus en plus à la communication et à l'échange d'informations. Et si le mystère de parler dépend d'un passage, dépend d'une brèche, eh bien cette brèche précisément menace de se refermer. Et je crois ici que c'est très important et que d'une manière générale c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de textes de réflexion théorique de Valère. Le point de vue n'est pas celui de l'essence humaine, de l'essence des choses, c'est le point de vue de l'histoire. C'est une pensée du devenir des choses. Et c'est devant cette fin de l'histoire que nous nous trouvons d'emblée. La fin de l'histoire est sans parole. La comparaison avec la monnaie doit être replacée, elle aussi, dans cette perspective historique. Hein. Alors, cette comparaison avec la monnaie, j'aurais pu élaborer ce point, mais je vais aller assez vite. Cette comparaison entre langage et monnaie, on la trouve sous la plume de Bacon, on la trouve sous la plume de Leibniz, on la trouve sous la plume de Locke. C'est quelque chose qu'on trouve chez les philosophes à l'âge classique. Et tous ces philosophes l'utilisent pour dénoncer le caractère conventionnel du langage. Autrement dit, le fait que les mots sont des étiquettes qu'on a choisies arbitrairement, en vertu d'un accord social, et on pourrait très bien en changer et appeler une table chaise ou une chaise table. Il suffit de se mettre d'accord. Donc, par là, ils indiquent le fait que les mots n'ont pas rapport aux choses de façon essentielle. Les mots ne sont rien d'autre que des valeurs, des étiquettes sur lesquelles on s'est accordé. Alors, ça décrit la faille ou le manque essentiel du langage. Alors, Valère utilise cette comparaison, mais encore une fois, il l'utilise dans un contexte historique. C'est-à-dire que la monétisation du langage est un événement de l'histoire, un événement en cours, celui d'une réduction de la parole à un échange silencieux et celui d'une fin de la parole. Nous finirons un jour muets à force de communiquer. Et là, il y a un silence, vous voyez, mais c'est le silence de la fin. C'est-à-dire, c'est le silence de la parole éteinte. Et je vais opposer assez régulièrement, vous allez voir, ce silence de fin à ce que j'ai appelé tout à l'heure le silence de fond. Or, ça c'était cette ouverture dedans à la parole. Or, il y a une autre voie, il y a une autre histoire. Et la suite de l'essai va raconter cette autre histoire qui est possible et qui est urgente. Il y a une seconde possibilité où la parole, justement, n'est plus une simple activité d'échange, n'est plus une simple activité symbolique interhumaine, et j'insiste beaucoup là-dessus, mais une relation à autre chose, à de l'autre. Rien de plus opposé au symbole, notion de symbole où domine précisément la perspective de l'échange, que cette ouverture intérieure, ce passage parlé que mentionne Valère à la page suivante, page 14 et 15 de Devant la parole. Je cite « Chaque terrien d'ici le sait bien, qu'il n'est pas fait que de terre. Et s'il le sait, c'est parce qu'il parle. Nous le savons tous très bien, tout au fond, que l'intérieur est le lieu non du mien, non du moi, mais d'un passage, d'une brèche par où nous saisit un souffle étranger. À l'intérieur de nous, au plus profond de nous, est une voie grande ouverte. » Je m'arrête sur cette dernière formule. Ce qui est au fond, c'est une ouverture. En plongeant en soi, on s'enfonce dans une intériorité qui n'est pas en elle-même une chose, qui n'est pas en elle-même une intimité dernière, mais de façon très augustinienne, qui est un point de passage vers autre chose, qui est ouverte. Or, avec cette ouverture sur l'altérité, on est au point de bascule, ici, entre philosophie et théologie. Si nous savons que, je cite à nouveau Valère, la parole existe en nous, hors de tout échange, hors des choses, déclaration qui jusque-là est tout à fait compatible avec une certaine conception anthropologique de la parole, nous ne sommes pas de simples communicants. Valère ajoute que cette parole existe même hors de nous. Nous le savons tous très bien, tout au fond, que la parole existe en nous, hors de tout échange, hors des choses, et même hors de nous. Et du « en nous » au « hors de nous », vous le voyez, il y a un pas de plus. Il y a la désignation de quelque chose qui est une extériorité. Quel est ce dehors ? Quelle est cette extériorité ? Est-ce que l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur a d'ailleurs encore un sens ? Si le langage est toujours à la fois dedans et devant. En face et à l'intérieur de nous, écrit Valère. Le langage est en face, enfin la parole, je devrais dire pour être précis, la parole est en face et à l'intérieur de nous. Donc elle est interne-externe. C'est ce que je vais essayer d'approfondir dans mon deuxième temps, que j'appelle passage parlé. Je me suis rendu compte en préparant cette conférence que à paysage parlé, il n'y avait pas grand-chose. Passage parlé pour une consommation universelle. Vous allez comprendre pourquoi je parle de consommation. Alors, le texte va effectivement se développer autour de cette idée que le langage existe en dehors des hommes. Si le mot est à l'intérieur de moi, il est plus que moi. Il en sait plus que moi. Il me dépasse. Le langage est une chair dont les sujets parlants participent. Et de manière tout à fait intéressante, ce qui marque cette nouvelle séquence de la réflexion, ce sont deux inflexions de changement dans le vocabulaire. Tout d'abord, une inflexion qui porte sur la notion de mutisme. Le mutisme a changé de camp à la page 14. Vous vous souvenez que tout à l'heure, le mutisme caractérisait la communication. Nous finirons un jour muets à force de communiquer. Donc c'était ce vers quoi nous nous dirigions, le silence de faim. Or, page 14, le mutisme se retrouve dans la qualification du voyage dans la parole. Ce que Valère appelle le voyage dans la parole. De la descente dans les gouffres, qui est le propre du parlant. Et à nouveau, quelle formule étonnante. Quand nous parlons, il s'agit, je cite, d'une descente en langage muet dans la nuit de la matière de notre corps. Donc nous prononçons des mots, nous produisons du langage, et puis pourtant, en même temps, c'est un langage muet. Comme si le silence était équivalent dans la parole, comme si le silence était tramé dans la parole. C'est une image, voilà, oui, c'est un déplacement du mot muet qui est tout à fait frappante. Le second renversement concerne l'image de la dévoration, et je vais y passer plus de temps. À l'image dystopique des mangeurs du monde, qu'on avait page 13, que sont donc les hommes devenus des animaux communicants, s'oppose une autre formule utilisée un peu plus loin, savoir mordre. Ça se trouve page 16. Donc l'acte de manger va changer de sens. Et le sens de ce renversement est assez clair. Là où la communication produit le remplissement de soi, là où manger le monde, c'est se gaver de lui, la parole, elle, est une mangerie d'une autre nature, qui troue, qui allège, qui, à rebours de tout remplissement, fait le vide. Et de manière tout à fait significative, le mot « vide » apparaît ici pour la première fois dans l'essai. Et détail là aussi significatif, il apparaît dans une formule active, comme un coup de vide porté dans la matière. Sur cette image de la mangerie, du repas, je voudrais faire deux remarques qui vont m'amener à la prière. La première remarque, c'est que la mangerie impose la présence d'un corps. Il y a là une situation physique de la parole, et évidemment rien de surprenant. C'est quelque chose d'essentiel dans l'opposition entre le parlant et le communicant. Le parlant parle depuis son corps. Parler est une habitation du corps. Et la fin de l'essai, en reprenant le thème de l'idole, le dira clairement « Toute parole humaine tombe dans l'idolâtrie dès qu'elle est, je cite, « hors du corps qui les respire », qui respire les mots. Donc il n'y a pas de parole sans corps. C'est le propre de la mécanisation, de la communication, que des mots puissent être prononcés en l'absence de tout corps vivant et parlant, un peu comme sur les quais des gares quand on attend le train. Voici encore ce qu'écrit Valère. Chaque mot divise un morceau de réel dans ta bouche. Ici est un lieu, dans ta bouche, où il y a écartèlement de l'homme par l'espace et où nous écoutons apparaître le vide, l'espace venir battre. Donc vous voyez, à aucun moment, la parole n'est conçue comme une réalité strictement spirituelle, mais toujours mêlée à la chair. Elle est notre chair mentale, notre chair spirituelle. Elle a lieu, elle a un lieu. La seconde remarque porte sur quelque chose de tout à fait important et qui va avoir une sorte de valeur presque déductive, discursive dans mon propos. L'idée que la parole mange le monde, c'est une idée qui porte en elle une dimension historique et qui s'oppose précisément à cette histoire dont on voyait la fin, page 13 au début de l'essai. Il y a une consommation du monde, une consummatio mundi. Le propre du langage est d'attaquer le monde, d'agir sur lui, d'être une force de négation et de destruction. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un processus par lequel le temps passe et s'avance vers ce moment où tout sera consommé. Par opposition justement à ce que Valère appelle le grand système marchand qui est caractérisé par un temps circulaire, le temps circulaire d'une vente à perpétuité. Donc au contraire, le processus du repas, de la dévoration, est un processus de combustion. Et par définition, une combustion doit avoir une fin. Donc la parole véritable, elle est destructrice. C'est une parole de feu, dont le propre est d'aller jusqu'au bout. Et il y a toute une description de ce combat, de la page 16 à la page 18, où précisément ce combat est fait d'attaques, de morsures, de trouées, d'inversions, d'enlèvements, de brisures, de renversements, de coups de fouet, de luttes, de creusements, de négations, d'arrachements, de destructions, de divisions et d'écartèlements. Ce sont les termes que j'ai relevés dans ces pages. Et alors, très important, c'est que si la parole brûle les choses, elle se brûle elle-même. Comme dit Valère, elle nous mène au mystère et meurt. Autrement dit, le langage lui-même se consomme, se consume dans l'acte de parler. Il brûle, c'est-à-dire qu'il brûle les choses en se brûlant lui-même, en se consumant. Il s'annule en même temps qu'il détruit. Donc, les mots ne sont pas évidemment des étiquettes qui renvoient aux choses, mais le langage n'est pas non plus une voie d'accès aux choses, à des choses qui seraient déjà là. Le langage est un chemin vers autre chose. Parler n'est pas fait pour nommer, ni même en dernière instance pour appeler les choses, mais pour, par la perforance même du langage, par cette combustion, accéder à l'autre qui est lui-même parlant. De notre parole à sa parole. Et là, je voudrais citer trois phrases, un enchaînement qui me sidère, enfin que je trouve d'une beauté et d'une profondeur tout à fait remarquable. La parole nous a été donnée non pour parler, mais pour entendre. La parole ne nous a été donnée que pour entendre ce qui est tu. Tu nous as donné la parole pour t'entendre. Et vous voyez que ces trois phrases sont comme une approche. Parler pour entendre, entendre ce qui précisément n'est pas dit, t'entendre. Toi. De manière tout à fait remarquable, c'est cette équivalence de la parole réduite au silence de l'écoute, le tu, du verbe taire, et de la parole adressée, le tu, du tutoiement, qui introduit au thème de la prière. Et cela se comprend bien. La prière ne fait pas nombre avec la communication, l'expression, la désignation, la nomination. La prière ne dit pas d'abord quelque chose. Elle est d'abord une adresse à quelqu'un. Et je voudrais citer ici Jean-Louis Chrétien, l'Arche de la parole. Là aussi, je trouve une phrase, une pensée très, très belle sur la prière. La prière s'apparaît comme toujours devancée et précédée toujours par celui auquel elle s'adresse. Elle ne commence pas, elle répond. Donc la prière est une réponse. À l'évidence, cette définition de la prière ne vaut pas pour le seul acte de prière, mais pour la parole en général. Il y a en celle-ci une dimension priante, orante, puisque l'adresse à l'autre est la condition de tout acte de parole. Pas de contenu, conclura devant la parole, à propos de la parole humaine, mais une bouche ouverte. Un passage troué, qui donne sur, qui mène à, qui tend vers. Et cette bouche ouverte, j'ai toujours l'image. C'est un peu ce qui est derrière tout ce que je suis en train de vous dire. L'image de l'adresse, mais au sens quasi originaire de l'adresse. C'est-à-dire le moment où on ouvre la bouche. En ce sens, vous le voyez, la parole comme chose intérieure est liée à une altérité. Et c'est de cette manière qu'elle est, par essence, interne-externe. Alors, dans ma troisième partie, je voudrais tirer les conséquences de cela et puis aller un petit peu plus loin sur cette conception de la prière qu'on trouve sous la plume de Valère. Je voudrais d'abord insister sur le fait que la prière provoque une crise dans le langage, provoque une crise du sens. Et ensuite, j'essaierai de montrer ou de suggérer qu'il y a une relation profonde entre prière et animalité, sous la plume de Valère. C'est là que l'animal va reprendre le poil de la bête, si j'ose dire. Alors, je viens de citer la fin de Devant la parole, qui fait place à une parole sans contenu. Et je crois qu'il faut prendre au sérieux l'idée selon laquelle, je cite Valère à nouveau, toujours cet essai Devant la parole n'échange aucun sens, mais ouvre un passage. Ça suggère que le point de vue du sens sur ce que dit le texte est insuffisant. Le sens de la parole ne saurait être la simple signification, le contenu sémantique visé par les mots ou les phrases. Et la question même des quatre sens de l'écriture, je crois, ne doit s'entendre que dans la perspective du sens comme passage. C'est en d'une certaine manière ce que confirme la réflexion de Valère sur ces quatre sens de l'écriture, en particulier sur le sens anagogique, qui est pour ainsi dire la figure de proue de tous les autres sens, hein, qui est la pointe du losange des quatre sens, qui est, écrit Valère, sur-sens, sens à l'arracher, hein, ça se trouve dans voie négative. Autrement dit, qui n'est pas simplement le sens possible d'un message, mais l'indication que ce message est à renvoyer à ce qui n'est pas saisi, à ce qui n'est pas là. Autrement dit, il y a quelque chose ici qui fait que lorsqu'on se saisit du sens d'un message, lorsqu'on déchiffre et qu'on possède sa signification, en réalité, on manque encore de quelque chose. Le sens anagogique vient dans la manière dont Valère l'utilise. Je ne dis pas que c'est exactement le sens, l'utilisation, on va dire, exactement le sens théologique de la notion, mais vient marquer quelque chose comme une déficience de la capacité à posséder, à enfermer la signification. Nous ne sommes pas des bêtes qui s'expriment, mais des animaux que la parole porte ailleurs. Toujours dans Devant la parole. Et on comprend alors que Valère puisse matérialiser la notion de sens. Il y a cette très belle définition, page 22, très, très rapide, hein, vraiment au détour du... Voilà, fondu comme ça dans l'enchaînement des phrases. « Le sens est une soif d'espace », écrit-il. « Il est le mouvement d'être envoyé ailleurs. » Alors, que l'anagogie soit une visée, qu'elle soit une tension vers, c'est ce que dit la phrase célèbre que cite Valère, d'ailleurs, de Nicolas de la Lyre, hein, « Litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. » Donc le sens littéral enseigne les faits, le sens allégorique, ce que tu dois croire, le sens moral interprète l'histoire, les faits, dans le sens de l'action, ce que tu dois faire, donc il y a un symbolique moral des écritures, et le sens anagogique, quotendas, où tu tends, où tu vas. Et dans le sens, vous voyez que dans le sens le plus immédiat de cette notion, c'est le sens prophétique. Autrement dit, les écritures nous disent ce qui va arriver, ils nous disent le futur. Voilà. Et on peut, à travers les écritures, comprendre la perspective de l'avenir. L'anagogie tend vers autre chose. Elle est une tension, une attention, une attente, un aller simple pour l'ailleurs. Et ce qui était très intéressant, et ça concerne Valère, mais ça concerne aussi toute une littérature théologique, ce qui est très intéressant, c'est que cette orientation vers l'ailleurs, vers l'autre, vers l'inconnu, met en crise la parole, comme tentative de signifier quelque chose. Et on trouve une conscience de cela chez les médiévaux, autour de la réflexion sur l'orientation de la prière, sur l'attention présente dans la prière. Je cite un passage de la Somme théologique, Thomas d'Aquin donc, qui explique, je cite, qu'on peut donner à la prière trois sortes d'attention. On peut prêter attention aux mots eux-mêmes, pour ne pas se tromper. Ensuite, au sens des mots. Et puis troisième attention, à ce qui est la fin de la prière, c'est-à-dire à Dieu et à l'objet de la demande. Et Thomas d'Aquin explique que l'attention à Dieu, ce qu'il appelle donc un élan spirituel, c'est précisément, et là il cite un augustinien, Hugues de Saint-Victor, c'est précisément cet élan spirituel ce qui fait qu'on en oublie tout le reste. Les mots, mais aussi leur signification. Et alors là, je vous cite directement Hugues de Saint-Victor, le texte auquel se réfère Thomas d'Aquin, citation que je trouve absolument extraordinaire. « La prière est pure lorsqu'en raison de l'abondance de la dévotion, L'esprit est à ce point enflammé qu'en se tournant vers Dieu pour lui adresser ses demandes, il oublie même ses demandes. Donc, vous voyez, le sens de la prière est peut-être de n'avoir aucun sens, sinon le mouvement de conversion, c'est-à-dire le mouvement de l'adresse. Évidemment, on peut transposer ça, penser à l'expérience amoureuse, c'est-à-dire le moment où alors, on veut s'adresser, on veut dire quelque chose et on ne sait plus ce qu'on veut dire. On a perdu son latin. Pourtant, il est très surprenant de voir qu'en dépit de ce mouvement anagogique, spirituel, vous voyez, je réfère à Thomas d'Aquin, des autorités de théologie, la notion d'animal reste présente dans le contexte de la réflexion que Valère mène sur la prière, et de manière tout à fait centrale. Vous vous souvenez que dans la première page de l'essai, l'animal était rejeté hors de la sphère de la parole, au titre de celui qui simplement échange des signaux. Et pourtant, en introduisant le thème de la prophétie, Valère écrit que, je cite, « le mot humain est une prophétie d'animal ». Ou encore, « nous ne sommes pas des bêtes parlantes qui s'expriment, mais des animaux de prophétie ». Et plus loin, il aura une formule semblable. « Ici, nous n'étions pas des bêtes qui avaient quelque chose à dire, mais des animaux traversés par la joie de parler ». Comment comprendre cette persistance de la figure de l'animal ? Je crois qu'il y a deux raisons. La première, elle est assez simple et évidente, c'est que l'animalité dit le lien indissoluble de la parole et du corps. La parole se rattache à notre corps vivant, elle en vient, elle en est. Et Valère nous rappelle constamment que l'homme parlant n'est pas l'animal qui parle. Si par là on entend le corps muet, à quoi s'ajouterait le don de la parole, comme de l'extérieur ? Mais au contraire, que la parole vient du corps, comme articulation, comme profération. Parler, c'est être un animal plus qu'un homme. C'est laisser venir les mots et les phrases de son corps. Et les acteurs en savent quelque chose. Mais il y a une seconde raison de cette présence de l'animal qui ne peut se comprendre qu'en s'arrêtant sur la définition de la prière qui est donnée donc quelques pages plus loin, page 31-32. La prière n'est pas une effusion, un vague à l'âme, ni le sommeil de la raison. Elle veille. Elle a les yeux ouverts. La prière est une place marquée en chacun de nous, en toi, en moi, en eux, en chaque animal. Il y a toujours quelque chose qui reste à la place de la prière, en attente, car ici-bas, dans l'animal, la prière attend. Un vide est au milieu du langage, hors du corps et au milieu de nous. Il y a en toute chose, au centre, le creux de cette place muette, la prière. Le lieu en chacun de nous, en tout lieu et ici, d'une détresse sans sujet, et d'une joie sans raison. Cette définition de la prière m'a toujours énormément interloqué, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui, depuis longtemps, me trouble. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un acte de langage. La prière ici n'est absolument pas un acte de parole, pas du tout. Ce qui est décrit, c'est une position d'attente. C'est une posture animale. Une posture d'oiseau nocturne. Elle veille, et elle a les yeux ouverts. L'animalité dit ici la fixité du regard, l'obstination de la bête tendue vers un bruit, vers une proie. Ce que souligne d'ailleurs la suite du passage. Je cite « De toutes nos activités mentales, la prière est la seule qui comprend la mort. C'est un arrêt de la parole lié à la vue du sang. » La prière, vous voyez, est assimilée à un saisissement devant le sang versé, à une situation d'effroi et de fascination devant ce qui symbolise à la fois la vie et sa perte. Donc, vous le voyez, il y a un voir dans la prière, un voir tendu vers la mort. Dans l'histoire de la tradition chrétienne, il y a deux définitions distinctes de la prière. Et là, je m'appuie à nouveau sur la réflexion de Jean-Louis Chrétien. Première définition, celle qui fait de la prière la demande à Dieu de ce qui convient. Seconde définition, la prière comme une élévation vers Dieu, qui, elle, est libre de tout langage, qui est donc sans parole. On trouve chez les pères de l'Église l'idée que la prière est un état de l'intellect, une catastasis, chez Évagre le Pontique, hein, où l'état de raison, l'état de prière, et ce qu'il appelle l'état de pure intellectualité sont la même chose. C'est cette conception que mobilise Valère ici. Et ce qu'il indique, ce n'est pas seulement cette position d'attente que je viens de commenter, mais c'est l'idée que la prière est un lieu, une place. On trouve la même idée chez Augustin. Dans un passage du De Magistro, Augustin répond à l'objection d'Adéoda, qui lui dit qu'il est absurde de prier Dieu par une parole, puisque Dieu, on ne peut rien enseigner à Dieu, il sait, il n'y a pas besoin qu'on lui dise. Bon, pourquoi lui parler ? Et Augustin lui répond deux choses. Il lui répond d'abord que la prière n'est pas essentiellement un acte de parole. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est un rappel pour les êtres humains. Donc quand on prie pour soi ou pour les autres, mais on ne prie pas pour Dieu. La parole a une fonction de rappel, c'est-à-dire qu'elle renvoie à l'homme. Et ce que précise aussitôt Augustin, c'est que la prière est un acte accompli dans les profondeurs de l'âme humaine, dans le temple de l'homme intérieur. Le problème n'est donc pas d'abord de savoir quoi dire quand on prie, mais où l'on prie. Prier, c'est se replacer, je cite Augustin, dans le temple de l'esprit et dans la chambre du cœur. La prière est donc comme un replacement de soi dans le lieu de son intimité, de cette intimité qui, chez Augustin, comme chez Novarina, est sans fond. Donc, on comprend le privilège de la prière muette par rapport à la prière vocale chez Valère. Et c'est vrai que sous sa plume, souvent, très souvent, la prière est muette. Dans l'envers de l'esprit, la prière est une respiration, un intérieur-extérieur échange de souffle et de paroles adressées. Un peu plus loin, il évoque Augustin et Valère parle du balbutiement de la prière, presque l'aphasie, qui donne lieu, je cite encore, au silence de la prière, à la prière muette. Or, dans Devant la parole aussi, il y a un mouvement vers l'aphasie, qui est cohérent avec cette idée que l'usage des mots nous amène jusqu'à leur épuisement, jusqu'à leur entière consommation. La mise en lumière, en exergue de la prière muette, permet d'indiquer ce point ultime où l'on tend, permet de mettre en lumière le vide qui est au milieu du langage. Alors, vous savez que cette formule, ce mot vide contient d'une certaine manière l'essentiel, puisqu'elle recèle, comme on le sait, alors ça n'est pas présent dans ces textes, mais c'est présent ailleurs dans les écrits de Valère, elle recèle donc l'anagramme du mot Dieu, mais elle cache aussi, et je voudrais un peu prolonger le jeu anagrammatique, elle cache aussi, selon le même procédé, une double formule d'adresse. Celle de l'impératif latin du verbe voir, vide, de vidéo, voix. Et celle du vocatif de Deus, diwe. Donc Dieu, quand je m'adresse à lui. Donc la prière est un acte de parole où la parole reflue au profit d'un voir qui est celui de la vision saisie, fixée sur l'horizon de la mort, comme on l'a vu tout à l'heure, vision qui coupe la parole, mais qui reflue aussi au profit de l'adresse à Dieu, du regard qui se tourne vers lui. Et je crois que Valère cite d'ailleurs, quelque part, j'ai pas retrouvé la référence, Denis l'Aréopagite, qui définit la prière comme une vision. Prier, c'est tourner le regard. Donc, il ne s'agit pas là d'un mutisme qui exclurait le langage, mais au contraire, d'un mutisme qui se trouve au principe même, dans l'intention du dire. La prière, dit Lévinas, est là où l'invocation n'est pas précédée d'une compréhension, là où on ne sait pas encore quoi dire. Elle est ce mutisme essentiel qui est contenu dans l'acte de parler, comme acte. Et la profondeur anagrammatique du mot vide nous renvoie, je dirais, à cette tension entre adresse et signification. Puisque la véritable adresse est regard, dire Dieu, c'est seulement et uniquement voir Dieu. Et c'est donc, par définition, être vide de tout langage défini. Même et surtout du nom Dieu. Je conclus par une citation d'abord de L'Espace furieux. Le vrai silence est parler. De même, l'immobilité vraie est le mouvement. On comprend mieux de quoi il s'agit à présent, Le silence ne s'oppose pas à la parole, mais se tient en elle comme un point muet qui est celui du désir. Il n'est pas ce silence paralysé qui met un terme à la parole, ça c'est ce que j'ai appelé le silence de fin, mais au contraire, ce qui la précède et la rend possible, le silence de fond. En ce sens, devant la parole est un écrit lui-même anagogique. Il nous ramène à l'arrêt central de la prière, à ce moment silencieux de l'adresse qui, présent dans tout acte de parler, procède d'un désir vivant. Le silence n'est pourtant pas le dernier mot devant la parole, si j'ose dire. Et je voudrais terminer en nuançant, en complétant ce que j'ai dit autour de cette question du silence et du rapport au langage. En effet, après avoir défini la prière, devant la parole, au lieu de nous demander de nous taire, nous invite à proférer deux noms qui sont comme ces deux noms, comme la langue ultime, le sous-texte de tous nos discours. Le « vient » de l'Apocalypse, formule qui contracte en elle le désir contenu dans le mouvement de la prière, « vient ». Et « je suis », qui, comme le développera l'envers de l'esprit, est le nom commun à Dieu et aux hommes. Dieu se nomme « je suis » pour porter le nom de chaque humain, écrit Valère dans l'envers de l'esprit. Ces deux noms sont comme des cas limites de la parole, du langage réduit au plus simple. Le « vient » de l'Apocalypse est comme un simple geste. C'est le langage au moment où, d'une certaine manière, on pourrait presque ne pas le dire. « Viens ». De même que le « je suis », qui fait penser à l'ego sum cartésien, est comme une simple position d'existence. Ils sont, l'un et l'autre, comme des silences parlés. Merci beaucoup.